Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Mardi 18 février, bonsoir à tous, place à la session soirée de l'info sur RFI. On est ravis de vous retrouver pour 3 heures d'actualité. Avec au programme dans 10 minutes Mardi Paul. Ce soir, Mardi Politique, l'invité sera le porte-parole du Rassemblement National, Julien Odoul. Juste après, ce sera le débat du jour. Alors que toutes les parties prenantes au JO 2030 dans les Alpes françaises, eh bien, sont actuellement réunies à Lyon pour la présentation du comité d'organisation, nous poserons cette question. Est-ce qu'il fallait organiser ces Jeux Olympiques 2030 dans les Alpes françaises? Les critiques sont vives. Elles sont économiques, elles sont écologiques. Quels sont les atouts de ce projet? Comment bénéficier d'un effet à la Paris 2024? Réponse dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir et le dossier depuis Riyad, la capitale saoudienne, où se déroulent actuellement les premiers pourparlers entre délégations américaines et russes depuis l'invasion de l'Ukraine. 18h30, TU Afrique Soir, la première édition de ce mardi. 19h10, temps universel, votre session reportage pendant 50 minutes, comme chaque soir. Accent d'Europe, ce soir, sera dans le sud de l'Italie avec une association de lutte contre la mafia qui œuvre auprès des plus jeunes. Enfin, le grand reportage auprès des prisonniers de guerre ukrainiens. Un retour au pays qui met en lumière l'enfer des geôles russes. Voilà pour le programme. Mais pour l'heure, 17h, bientôt 2 minutes en temps universel, c'est le journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et pour débuter, eh bien, la satisfaction affichée par Washington et Moscou après la réunion de Riyad.
C'est un pas dans la bonne direction, selon les Américains. Une réunion fructueuse pour le Kremlin. Plus de 4 heures de discussion dans un palais de la capitale saoudienne entre les chefs de la diplomatie des deux pays. Une première depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine se prépare, mais la date n'est pas encore fixée. Avec une question, vont-ils négocier seuls la fin de la guerre en Ukraine? C'est ce que redoute Kiev, tenu à l'écart. Volodymyr Zelensky, en déplacement à Ankara, dénonce des négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Écoutez le président ukrainien.
Nous voulons la fin de cette guerre, mais nous voulons que cela soit juste et que personne ne décide quoi que ce soit dans notre dos. Chaque pays peut discuter avec d'autres, mais vous ne pouvez pas prendre de décision sans l'Ukraine sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous n'avons pas été invités à cette réunion, la réunion russo-américaine en Arabie Saoudite. Cela a été une surprise pour nous, comme pour beaucoup d'autres, je pense. Nous l'avons appris dans les médias. Je ne sais pas qui va rester là-bas, qui va partir, qui va aller où. Et pour être honnête, je ne m'y intéresse pas. Nous sommes absolument honnêtes et ouverts et je ne veux pas donner une image erronée. C'est pourquoi je n'irai pas en Arabie Saoudite.
Volodymyr Zelensky réclame des pourparlers équitables qui incluent l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie. Le président ukrainien a rencontré à Ankara le président turc. Recep Tayyip Erdogan se dit prêt à accueillir des pourparlers de paix dans son pays. Quant aux Européens, eux aussi tenus à l'écart, ils réclament de pouvoir faire équipe avec les États-Unis pour obtenir une paix juste et durable. Ils ont tenté hier de présenter un front commun à Paris face aux cavaliers seuls des Américains. Une nouvelle réunion va se tenir à Paris mercredi, de sources diplomatiques avec une participation élargie. Les pays baltes et le Canada devraient être présents notamment. Londres était présent hier aux côtés des dirigeants de l'Union européenne. Keir Starmer entend aussi entretenir une relation privilégiée avec les États-Unis. Il rencontrera Donald Trump à Washington la semaine prochaine. Le Premier ministre britannique veut faire le pont entre les 27 et Washington, mais la mission s'annonce ardue, voire impossible. Des éléments d'analyse avec Emeline Vin depuis Londres.
Tout en appelant les États-Unis à apporter des garanties pour la paix en Ukraine lundi soir, Keir Starmer se rapproche de la position américaine sur les dépenses militaires.
Nous autres Européens devons en faire plus. La répartition des responsabilités n'est pas un problème nouveau, mais il devient plus pressant. Nous devons accroître nos dépenses et nos capacités.
Seulement, cette tentative de médiation a peu de chances de trouver écho à la Maison-Blanche, explique Margaret Macmillan, historienne des relations internationales à l'Université d'Oxford.
C'est totalement illusoire. L'administration Trump ne croit pas du tout à une relation spéciale avec le Royaume-Uni. Trump respecte ceux qui lui tiennent tête. Suisse. Je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner en tentant d'être conciliant.
Pour son confrère Timothy Gartonash, le Royaume-Uni devra choisir diriger la défense européenne ou entretenir de bonnes relations avec Washington.
Si nous sommes exemptés de droits de douane alors que les Européens s'y voient soumis, nos amis européens vont nous rétorquer que nous ne perdrons pas d'argent avec Trump quand nous lui demanderons de nous accorder des contrats militaires et de renforcer nos relations.
Les deux historiens considèrent l'Italie de Giorgia Meloni mieux placée pour faire le pont entre Europe et États-Unis. Emeline Van Londres, RFI.
Au Proche-Orient, vaille que vaille, la trêve se poursuit entre Israël et le Hamas. De nouvelles libérations d'otages sont annoncées. 6 Israéliens vont être libérés samedi et 4 corps d'otages tués dans la bande de Gaza seront aussi restitués à l'État hébreu après-demain, dont les corps de la famille Bibas selon le Hamas. Le père, Yarden Bibas, a été libéré le 1er février. Il avait été enlevé le 7 octobre avec son épouse Shiri et leurs deux garçons, Kfir et Ari, âgés respectivement de 9 mois et de 4 ans au moment de leur capture. L'armée israélienne devait se retirer du sud-Liban aujourd'hui, c'est ce que prévoyait l'accord de cessez-le-feu signé en novembre avec le Hezbollah, mais Israël a décidé de maintenir ses troupes en 5 postes de contrôle. Selon l'État hébreu, le Hezbollah ne s'est lui-même pas retiré de la zone au profit de l'armée libanaise. Beyrouth demande au Conseil de sécurité d'obliger Israël à quitter son territoire. Après l'arrivée tonitruante du robot chinois DeepSeek sur le marché, Elon Musk a présenté hier la nouvelle version de son IA conversationnel, Grok 3, disponible depuis ce matin uniquement pour les abonnés de la Formule X Premium aux États-Unis. Ce nouveau modèle est plus puissant que tous les systèmes concurrents, a martelé le milliardaire américain Dominique Dezonnet.
En qualifiant lui-même les capacités de raisonnement de Grok 3 d'effrayantes, Elon Musk annonce avoir augmenté la puissance de son supercalculateur Colossus dédié à l'IA en doublant de 100 000 à 200 000 le nombre de ses puces graphiques conçues par le champion mondial du secteur Nvidia. Cette débauche de puissance mise au service des utilisateurs a été réalisée sans avoir eu besoin de piller les données des internautes, affirme Elon Musk, indiquant que son nouveau programme n'avait utilisé lors de son entraînement que des données dites synthétiques générées artificiellement. Elles ne contiendraient aucune information en particulier provenant d'individus identifiables. Ce sont donc des IA qui permettent aujourd'hui d'entraîner les programmes d'intelligence artificielle, explique le patron de X, avec le risque toutefois que les humains soient à terme exclus des conversations sur les réseaux sociaux quand les agents virtuels de Grok dialogueront à votre place avec des programmes d'intelligence artificielle.
Certains se souviennent d'un Français bondi sur la neige d'Albertville en 1992, Edgar Gros-Piron devenait champion olympique de bosse. Après des mois de retard, il vient d'être officiellement investi président du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes, après le retrait de Martin Fourcade, lors d'une conférence de présentation dans la banlieue de Lyon, à laquelle vous avez assisté Nicolas Feldman. Edgar Gros-Piron y a livré sa vision du poste.
Oui, tout à fait, des jeux qu'Edgar Gros-Piron veut impeccable, irréprochable, avec une empreinte carbone mesurée. Pendant une dizaine de minutes, Edgar Gros-Piron a donc livré sa vision. Il souhaite placer au cœur de son projet les athlètes, pas que français, mais aussi les étrangers. Il veut fédérer autour de lui tous les acteurs embarqués dans l'aventure, l'État, les deux régions qui hébergeront les compétitions, les comités olympiques et paralympiques, le nouveau patron des Jeux de 2030 l'a répété, il n'est pas là pour imposer, mais bien pour convaincre.
Et Nicolas, quels sont les défis qui l'attendent ?
Alors lui-même a comparé le parcours qu'il mène jusqu'à 2030 à un champ de boss, car c'est vrai, il a de nombreux défis de taille qui l'attendent. Il y a d'abord celui de dessiner la carte des épreuves. Les JO d'hiver vont se dérouler sur 4 grandes zones. Près de 600 km vont séparer, par exemple, le biathlon au Grand Bornand des sports de glace à Nice. Mais qu'en est-il, par exemple, de la grande station de Val d'Isère dans les Alpes qui souhaite, elle aussi, accueillir des épreuves ? Il lui faudra arbitrer. Autre défi, ce sera aussi celui d'organiser des jeux sobres, utiliser le moins possible, par exemple, les canons à neige, tout en respectant un budget serré fixé à 2 milliards d'euros.
Nicolas Feldman, en direct de Lyon, un mot de football. Et Monaco est condamné à l'exploit ce soir face au Benfica Lisbonne. L'équipe monégasque va devoir se surpasser pour renverser les Portugais et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.